Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour une autre émission, Mission Vision, une autre belle émission où est-ce qu'on parle de l'handicap visuel. Et aujourd'hui, je vais recevoir une invitée qui est de Trois-Rivières hein, présentement. Donc, on la rejoint par téléphone, Karine Descoteaux. Elle va nous parler d'un organisme que moi, je ne connaissais pas du tout, du tout. Donc, je trouve ça super intéressant de mettre en lumière plein d'autres gens qui font qui ont une mission magnifique avec au niveau de l'handicap visuel. Et après, on va aller rejoindre Annie Perrault et on va parler du deuil, hein, ce sujet fascinant que on peut parler dans plusieurs, dans plusieurs moments. On en a abordé. Le deuil, même avec mon émission la semaine passée, David Trudel. Tu sais, on parle souvent du deuil, mais là, on va vraiment comme plonger plus concrètement dans c'est quoi le deuil. Donc, bonjour Karine.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, vous-même.
Oui. Karine, là, je t'ai tutoyée, là. Est-ce que ça te va si je te tutoie?
Oui, ça va très bien, merci.
OK. Tu peux me tutoyer aussi. Karine, tu es directrice générale de l'Association éducative et récréative des aveugles et, comme je disais, c'est à Trois-Rivières.
Oui, tout à fait. Dans le fond, l'association existe depuis maintenant, je crois, 74 ans. Oh. Mais qu'on donne des services comme maintenant, là, c'est depuis mon arrivée, dans le fond, parce qu'il n'y avait pas exactement des employés là à temps plein à l'association.
Okay.
Ça a vraiment débuté là avec des bénévoles qui avaient l'intention, le goût de se rencontrer pour faire des activités.
Okay.
Donc, ça a vraiment commencé comme ça.
OK. Et toi, justement, vu que tu es directrice générale, mais moi, j'aime toujours ça, remonter aussi et faire un peu comme le parcours, finalement. Donc, mm-hmm. toi, Karine, au niveau de ton handicap visuel.
Mm-hmm. Moi, dans le fond, je suis devenue légalement aveugle il y a une dizaine d'années.
OK.
Donc, moi, j'avais la maladie que j'ai, c'est la rétinite pigmentaire.
Oui.
Donc, c'est une maladie génétique qu'on perd à la vue graduellement, là, au cours de la vie, là.
Et c'est ça, c'est graduel. Donc, ce qui veut dire que c'est pas quelque chose que tu avais connaissance quand tu étais toute petite, là.
Non, moi, j'ai bien vu, là, j'ai fait du sport, j'ai conduit, j'ai fait du quatre roues, oui.
OK.
Donc, j'ai bien vu, j'ai eu deux enfants aussi quand j'ai...
Avant?
Oui, à 20 ans, 21 ans, là, j'ai eu mes deux garçons, oui.
Donc, c'est vraiment arrivé à quel âge? En fait, comment c'est arrivé? C'est que là, tout d'un coup, il y a eu une baisse de vision, t'es allé voir un spécialiste, ça s'est passé comment?
Ben au début de tout, quand j'ai appris que j'avais la maladie, j'en avais pas nécessairement connaissance puisque j'avais une bonne vision.
Okay.
Je faisais beaucoup de sport à l'école. Cependant, mon frère était allé pour des tests visuels puis ils ont constaté qu'il y avait une maladie qui était la rétinite pigmentaire. Puis là, ils ont dit est-ce qu'il y a d'autres enfants? Donc on est allé passer des examens et puis on s'est rendu compte là, que j'avais la rétinite pigmentaire. Mais moi, je voyais bien la distinction des couleurs, la profondeur et tout et tout. C'est venu un peu plus tard, là, tu sais, là, vers l'âge de 31 ans, là, j'ai commencé à porter des lunettes pour lire, mais je lisais encore là, dans les journaux, les choses comme ça. Mais je pense qu'à 38 ans, là, je suis devenue légalement aveugle. Là. C'est une perte graduelle. Là, je me suis rendu compte. Ouais. Un matin, je m'en allais travailler, puis c'est venu assez rapidement. Moi, je travaillais comme préposée à domicile, et puis un matin, je faisais mon chemin, puis je me rendais compte que j'étais dans un nuage. Tu sais, c'est comme plus blanc, là.
Oui, oui.
Puis là, c'est ça. C'est un moment donné, tu peux plus faire abstraction.
Non.
Dis, quand j'étais jeune, je me disais, c'est pas pour moi, ça va arriver plus tard. Mm-hmm. On nie longtemps, tu sais, jusqu'au moment où on peut plus nier, là, tu sais.
C'est ça. Ça veut dire que toi, dans le fond, tu as eu, tu sais, on t'a dit le diagnostic, là, tu es adolescente, mais tu n'as pas de symptômes du tout.
J'avais 19 ans, oui. Non, j'avais
t'avais
pas
19
vraiment...
Ben, c'est ça.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment parce que c'est ton frère. Parce que si ton frère avait pas eu ça, toi, t'aurais pas su à 19 ans, vu qu'il n'y avait pas de symptômes.
Exactement.
OK, mais là, ça veut dire que là, à ce moment-là, on dit que t'as ça, la rétinite. Mais comme tu dis, t'as pas de symptômes. Mais là, tu sais, tu conduis la voiture, tu sais, pas longtemps après, tu as des enfants. Mais c'est à partir de quand que tu as commencé à dire, ah, ouais, là, je le vois que ça, je le vois plus bien, là.
Ben, tu sais, je te dirais, là, plus vers l'âge de 35-36 ans, là, j'ai commencé à voir que, admettons, j'étais assise autour d'une table à quatre, puis face, mettons, qui est en rectangle, au plus long du rectangle, là, je voyais pas les yeux de la personne. Je voyais la personne, mais pas les yeux, le nez, tu sais, les aspects du visage.
Ouais.
Puis, je te dirais qu'à 38 ans, je voyais encore, mais j'étais légalement aveugle. Là. Tu sais, ça me prenait vraiment des appareils adaptés pour la lecture, pour toutes sortes de choses dans mon quotidien aussi. Là. Des adaptations, même pour les trucs pour le ménage.
Ben oui.
Pour tout, tout.
Mais ça, OK. Donc, c'est vraiment arrivé très tard, là. Tu sais, en général, souvent, les gens, tu sais, vont avoir un peu plus, même si ça arrive à début vingtaine. Mais là, toi, c'est vraiment arrivé, tu étais plus proche de la quarantaine, là. Donc, tu sais, toi, toute ta vie, finalement, la vie d'adulte, parce que moi, j'ai tout le temps l'impression qu'une personne qui a qui commence à s'adapter quand elle est enfant, on dirait que j'ai l'impression que c'est déjà un peu plus facile parce que les enfants, ils ont une espèce de résilience naturelle que je trouve que nous, en vieillissant, à un moment donné, là, on dirait que c'est comme c'est comme un gros paquebot, là, tu sais, là, tourner le paquebot de bord, on dirait que ça commence à être difficile parce que t'as tout fait comme une voyante.
Exactement. Par exemple, moi, c'était le contraire. Je me suis mis en action là dès que j'ai vu que ça pouvait plus ça changerait pas, puis que j'étais comme pris. Puis là, je me disais, waouh, à mon âge, tu sais, je vais pas rester chez moi là à rien faire. Donc, je suis allée au centre de réadaptation. J'ai commencé des études aussi en psychologie.
Mais c'est ça que j'allais dire, parce que là, dans le fond, tu travaillais à préposé à domicile, donc tu étais préposé aux bénéficiaires.
Oui.
OK, c'est ça. Donc, c'était ça, ta formation.
J'ai fait une technique.
Une technique. À
l'éducation. Je vais juste terminer. J'ai fait une technique à l'éducation à l'enfance. Donc, j'ai travaillé en milieu scolaire. J'ai eu longtemps une garderie. Par la suite, je me suis réorientée là, pour faire un cours de préposé bénéficiaire.
OK.
Et puis, j'avais travaillé en installation. Puis après ça, j'ai travaillé à domicile. Puis ensuite, là, j'ai perdu... c'est là que je perdais la vue. Là, j'ai commencé à perdre la vue graduellement.
OK. Et là, comme tu dis, rapidement, tu t'es mis en action. Donc, OK, là, je peux plus faire mon métier comme je le faisais. Qu'est-ce que je fais? Et là, t'es allé à l'université.
Oui. Dans le fond, le premier pas, c'était de faire la demande là, au centre de réadaptation. Mm-hmm. Par la suite, je me suis inscrite à l'université pour faire des études en psychologie.
Oui.
Puis j'ai commencé. Il a fallu aussi que je fasse un cheminement parce que j'étais une fille quand même hyper active dans le sens que je faisais beaucoup de sport. Tu sais, j'avais deux garçons adolescents.
Mm-hmm.
Tu sais, donc je me suis réorientée dans mes passions, mes activités. Tu sais, moi, je faisais du dessin, je faisais toutes sortes de trucs là, qui demandaient de la précision ou de la vision.
Okay.
Fait que j'ai commencé à suivre des cours de guitare, à faire du sport aussi. Parce qu'on peut en faire du sport dans des groupes intégrés aussi.
Mais oui.
Lorsqu'on perd la vue, on n'a pas cette notion-là. Là. Tu sais, c'est très abstrait.
Mm-hmm.
Puis on pense qu'on ne pourra plus rien faire.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et là, finalement, tu es allé utiliser... c'est la psychologie qui t'a tenté. Ben, en fait, on voit déjà que tu étais dans des domaines de relations d'aide, là.
Tout à fait. C'est la psychologie parce que je me disais, je ne savais pas ce que j'aurais pu faire.
Ouais.
En ayant une technique d'éducation à l'enfant, je me disais avec un cours en psycho, peut-être je pourrais travailler comme intervenante. Puis ça a été l'option la plus rapide là, pour moi. Là. Puis c'est quelque chose que j'avais un champ d'intérêt aussi, la psychologie. Là, ouais.
Et là, à ce moment-là, donc dans le fond, tu es psychologue?
Non, vraiment pas.
OK.
faut faire un doctorat là, en psychologie pour être psychologue.
Mais oui, c'est ça. OK, donc c'est ça. Donc, tu t'es plus, je vais dire, t'es comme une intervenante, là, dans le sens que tu as des bases comme éducation à l'enfance spécialisée, quelqu'un qui fait des cours en psychoéducation, mais qui va pas aller chercher justement son doc là, pour avoir le chapeau, le titre, là.
Fait que dans le... Ouais. C'est ça, mais dans le fond, c'est un bac en psychologie, mais là, je suis directrice générale de l'AERA. Donc, là, je fais plus le côté administratif.
Oui. Oui, mais avant, dans le fond, tu étais intervenante. Où tu es allée presque rapidement comme directrice?
Bien, écoute, tout s'est fait. Ah oui, c'est ça, c'est le petit bout que j'ai sauté. J'ai fait, pendant que je faisais mes études en psychologie, je suis rentrée à l'AERA, dans le fond, pour travailler. Moi, j'ai été 8 mois en arrêt de travail, tu sais, là, pas de travail, mais j'étais étudiante.
Okay.
Puis, en faisant de la réadaptation, la personne qui me donnait des cours en braille, là, elle m'a demandé si je voulais travailler pour l'AERA. Ça s'est fait assez rapidement et facilement. Puis là, ça va faire 10 ans, là.
Mais est-ce que tu connaissais l'AERA quand on t'a parlé de ça au début? Non.
Non, moi, je faisais pas partie de l'AERA. Je connaissais pas beaucoup le communautaire, un peu ici et là, de ce qu'on entend, là, mais ouais.
Et ça veut dire que tu es allée au départ à l'AERA comme participante?
Non, comme agente de développement. Non, comme
travailleuse. OK, donc déjà comme pour travailler.
Oui.
OK. Puis, qu'est-ce que c'est l'AERA? Qu'est-ce que tu es allée chercher là-bas? Puis, c'est quoi exactement?
Bien, l'AERA, c'est essentiellement, c'est pour aider, soutenir, maintenir l'autonomie des personnes en situation d'handicap visuel. Puis ça comprend la base vision, la cécité, perception lumineuse. Et puis, dans le fond, on couvre Mauricie Centre du Québec.
Okay.
Dans le fond, l'AERA était là vraiment pour des activités plus dites ludiques, des activités traditionnelles, des jeux. Ils ont fait des projets aussi de sensibilisation. Puis moi, lorsque je suis arrivée, moi, c'est tout de suite, là, d'emblée, là, je suis allée présenter une offre de service que j'avais rédigé, puis que je suis allée présenter au CIUS pour dire, ben voici ce qu'on fait.
Okay.
Puis je suis allée cogner aux portes aussi pour développer du sport en milieu inclusif, dans des pavillons de loisirs. Et puis ça s'est construit vraiment comme ça dès le départ. Là, c'est ça, j'étais très proactive là, par rapport à...
Oui, ça se voit. Oui. Mais ça veut dire que toi, quand tu es arrivée là-bas... Mm-hmm. Tu avais déjà comme une idée en tête de qu'est-ce que tu voulais amener, ta contribution à l'AERA.
Ben, écoute, au début, non. Au début, je me suis assise devant l'ordinateur, puis j'avais pas grand-chose devant moi.
Okay.
Puis là, je me suis dit, mais j'avais des appels, des demandes. Puis c'est avec ces demandes-là, puis ces appels-là, que j'ai bâti là, l'offre de service avec l'intervention psychosociale, les formations en technologie, les activités culturelles, traditionnelles, les camps. Il existait déjà des camps, mais tu sais, c'est ça, là.
Les camps de jour.
Non, c'est des camps d'été, camps d'hiver. Il n'y a pas vraiment de camps de jour ici.
Okay.
Mais là, on a même une salle d'entraînement. On a toutes sortes de trucs là, qu'on fait, même des arts.
Okay.
On va vraiment dans toutes les sphères. Là.
OK. Donc, l'AERA, c'est un endroit où est-ce qu'on va, où est-ce qu'il peut avoir et du soutien psychologique et des activités, où est-ce qu'on va socialiser. Ça ressemble
exactement.
Un peu à ça. On peut aller autant s'entraîner.
Moi, dans le fond, je résumerais ça à un carrefour de service.
OK,
vraiment, là,
OK, donc c'est vraiment, on s'en va là, puis on peut aller faire notre entraînement. Exemple, une personne qui s'entraîne à tous les jours là, ou 3 fois par semaine, elle peut aller, dans le fond, s'entraîner là-bas.
Exactement. Puis on a un entraîneur spécialisé aussi là pour lui donner des cours de karaté, d'autodéfense, de boxe, de l'entraînement aussi avec les machines.
Oui.
Mais tu sais, on peut faire l'apprentissage du braille, on peut apprendre la technologie, on peut apprendre. On reçoit même des jeunes pour qu'ils puissent venir développer là, des compétences en milieu de travail.
Ah oui!
Ça, c'est vraiment de tout. On aide les organismes aussi. On fait des prêts d'appareils. Il y a des bureaux multiservices aussi pour la cécité et en basse vision.
Ouais, okay.
Donc, on a vraiment un éventail très, très large.
OK, mais là, la façon que tu en parles, là, ça a l'air d'être immense, là. fait que c'est vous êtes combien de professionnels là-dedans? Vous êtes 45?
Non, dans le fond, là, les gens qui sont là, tu sais, comme la kinésiologue est là pour des choses très, très spécifiques, l'entraîneur aussi, puis le formateur en technologie aussi. J'ai un agent administratif là qui va faire certaines tâches, là, la petite tenue de livre, mm-hmm. Il va faire du triage dans les papiers des gens, compléter des formulaires, faire les impôts. Mais pour le reste, c'est vraiment moi là. Tu sais, tout ce qui est sensibilisation, concertation, demande de financement. Je vais même faire des offres de services lorsque on le requiert. Mais ouais.
C'est OK, ça, mais c'est vous êtes une petite équipe là.
Oui, quand même,
oui. Mais oui, pour tous les services que vous avez, là, c'est vraiment une petite équipe, là, donc vous travaillez très fort. Tu sais, oui, toi, tu es directrice générale, mais clairement que je te vois comme une directrice générale, mais qui est un peu comme une petite pieuvre.
Exactement.
C'est ça. Parce que je pense pas que tu peux juste te concentrer sur le volet direction générale. Là, parce
non.
C'est ça. Mais il y a vraiment quelque chose de super intéressant que je trouve dans le tout ce que vous offrez. Parce que, tu sais, là-bas, il y a des groupes de soutien.
Oui.
Mais c'est ça. Alors là, il y a des intervenants.
Oui, c'est vrai. Il y a un intervenant psychosocial là, qui va donner, admettons, il va travailler des objectifs de vie.
Oui.
Il va laisser les gens travailler là, parce que lui, il a un cours en éducateur spécialisé.
Ah oui.
Fait qu'il va travailler sur certaines adaptations, il va aller marcher avec eux. Il va avoir des groupes de discussion, des causeries. Oui, tous ces volets-là, c'est un intervenant.
Et petite question, justement, l'intervenant, est-ce que c'est quelqu'un qui a un handicap visuel lui-même ou pas?
Non, dans le fond, les seules personnes qui ont un handicap visuel, il y a moi et le formateur en technologie. Là,
okay.
Qui va donner... ouais. Mais c'est vraiment bon. Là,
mais non, mais en même temps, c'est correct parce que moi, à l'Institut Nazareth et Louis Braille, en tout cas, moi, c'est ça mon centre de réadaptation. Toi, je ne sais pas, mais nous, on couvre quand même Nazareth et Louis Braille, ils couvrent la Montérégie et tout ça, là, mais je pense pas que ça se rend jusqu'à Trois-Rivières.
Non, ici, à la Trois-Rivières, okay. C'est intervalle. Dans le fond, il couvre Mauricie-Centre-du-Québec.
Ah, bon, ben c'est ça. Mais tu sais, moi, mon intervenant qui m'a appris la canne blanche, il voyait, là, tu sais. Donc, tu sais, c'est pour ça, tu sais, fait que c'est très correct aussi d'avoir des intervenants qui ont une vision à travers ça, parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé qui voit, là, finalement. Je me sentais beaucoup plus en sécurité d'apprendre à marcher dans la rue quand je sais que la personne qui me montre à apprendre à marcher, elle voit s'il y a des voitures qui s'en viennent. Donc, pour
tout
ça. Fait.
Surtout lorsqu'on débute avec
ben
la
oui.
visuelle.
Ben oui.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait autre aussi, là, dans le fond. C'est les visites exploratoires des terminus, des trajets d'autobus.
Ah oui.
Ouais.
Okay.
On a un partenariat avec la STTR aussi qui nous donne la gratuité lors des passages.
Mais là, dans le fond, à Trois-Rivières, là, parce que c'est à Trois-Rivières, mais ça couvre un petit peu plus grand que Trois-Rivières, mais est-ce que c'est comme le seul organisme qui a cette mission-là? Tu sais, comme nous, à Montréal, on en a plusieurs, là.
Non, okay. Nous, on est les seuls. On couvre, c'est très grand comme territoire. C'est Mauricie-Centre-du-Québec.
Ouais.
Donc, on peut autant être appelé à Parents, la TUC, à Victoriaville, Warwick ou autre, là.
OK.
Ville, Saint-Ferdinand, ouais.
Ça ressemble à quoi un peu là, la clientèle? Parce que là, dans le fond, c'est pour adultes. Il peut y avoir des ados, des enfants.
Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est oui. Payer sa cotisation. Mais on a des membres parents, des membres bénévoles et des membres actifs.
OK.
Donc, les membres actifs, ils ont un handicap visuel. Les membres bénévoles, ils adhèrent à la cause de la déficience mm-hmm. visuelle.
Mm-hmm.
Puis, les membres parents, tout à fait.
Ah, oh, ouais. Ah, mm-hmm. Oh, fait que ça peut être aussi que dans un gym, là, je donne celle-là l'exemple, où ça peut être dans un cours de peinture, où, tu sais, il peut avoir...
une déficience intellectuelle
ou
santé mentale.
Ouais. Oui, OK. Ah, donc ça veut dire que il y a... En fait, automatiquement, ils doivent avoir un handicap visuel.
Tout à fait.
Mais avec ça, c'est vrai qu'il peut avoir d'autres... tu sais, comme d'autres diagnostics là, qui s'ajoutent à ça.
Exactement.
Ah ben ça, fait que c'est ça. Donc, ça peut être, comme tu dis, déficience intellectuelle, autisme, santé mentale.
Santé mentale, sourdité.
Ouais.
Ouais.
Ah, vous avez aussi des personnes qui ont...
Oui,
OK. Puis à ce moment-là, est-ce que vous travaillez avec des interprètes?
Oui, généralement, c'est pratiquement indispensable là, d'avoir un interprète. Puis ça, c'est quelque chose qui coûte cher, puis c'est pas toujours couvert. Eux autres, ils peuvent couvrir, admettons, des activités comme des conférences, des choses qui sont en lien avec santé et services sociaux. C'est vraiment... Mais pour... pas pour tout, là.
Non, vraiment pas, là. Mais là, ça veut dire que dans ce beau bassin là, de clients, là, vous en avez à peu près combien, là, des usagers?
150 membres.
150 membres.
Mm-hmm.
Et il y a, dans le fond, une programmation qui est là, tu sais, comme à tous les jours. Là. Tous les jours, là, les gens pourraient se retrouver à l'AREA. À l'AERA.
Oui, tout à fait. Dans le fond, il y a une programmation qui sort à chaque saison. Et puis, avec des activités selon la saison. Et puis, parce qu'à l'été, on allège la programmation. Mm-hmm. Souvent, les gens sont plus actifs là, dans leur vie lors de cette saison.
Ouais.
Mais ouais. On adapte selon les saisons, puis il y a une programmation. Cependant, il n'y a pas une activité nécessairement là, de structurer à chaque jour.
Les gens
vont venir pour utiliser la salle de conférence, la salle d'entraînement, mais il y a des activités entre 3 à 4 jours par semaine.
Mais quand même, hein? C'est très beaucoup, là. Moi, je trouve, en tout cas. Et ça serait quoi, là, au niveau... Parce que là, justement, t'es directrice générale. Donc, t'es dans une posture aussi où est-ce que, là, les demandes de subventions... tout ça, là. Hein?
Oui.
C'est quoi, là, les enjeux? Parce que là, en plus, on le voit, là, le communautaire, il y a des coupeurs, les personnes en situation de handicap, le PAD, le SI, le... Bon... Au niveau, toi, là, de ce que tu expérimentes, là, ça, c'est quoi, là?
Les enjeux, l'enjeu premier, c'est, ça te surprendra pas, tu sais, dans la mesure où ce que c'est le financement.
Mais
parce
oui.
que l'handicap, tu sais, on a eu la nouvelle personne qui est rentrée, là, comme au poste du gouvernement, puis elle a parlé de toutes sortes d'enjeux dans la société, mais on nomme jamais l'handicap.
Non.
Donc, l'handicap, puis maintenant, l'handicap, c'est très, très large, hein, reconnu, là. Donc, la part du gâteau est plus petite.
Ouais.
Donc, l'enjeu, oui, effectivement, il y a ça. Et puis, l'enjeu, c'est de, tu sais, de se faire reconnaître, tu sais, d'avoir une place dans la société. Je trouve que l'handicap visuel, souvent, est... Tu sais, c'est pas sexy, comme on dit.
Non, c'est drôle, parce que c'est ça que je dis, moi aussi. C'est, je trouve tellement pas ça sexy, un handicap visuel, là. C'est ça. Oui, je comprends très bien.
Fait que donc, c'est plus difficile de faire sa place, d'avoir aussi, tu sais, moi, je travaille sur beaucoup de tables de concertation, donc je travaille sur les enjeux, surtout numériques, tu sais, entre autres, les fractures numériques, je trouve ça tellement important, tu sais, d'avoir l'accessibilité, tu sais, puis d'avoir la chance de compléter, d'avoir la formation, compléter des formulaires en ligne, payer en ligne, autant qu'un voyant, tu sais, puis consulter l'information, faire ses achats, donc, mais trop souvent, tu sais, ils font des mises à jour. Il faut vraiment être bon là, pour pouvoir tout pouvoir faire par soi-même là, de façon autonome. Là. C'est pas donné à tout le monde. Puis quand tu arrives pour expliquer ça, là, ils vont dire oui, on fait notre possible. Tu sais, comme là, je suis en train de faire une demande de financement à l'URLSM, puis tu sais, je lui dis que son formulaire, je peux même pas le compléter en ligne. Donc, j'ai fait un copier-coller pour l'avoir en Word. Elle me le rend accessible que je puisse l'envoyer par courriel, mais ça devrait pas, là.
Ben non, il devrait déjà être accessible.
Ben, tout à fait.
C'est ça. Mais on le sait, on est dans une société de voyants, là. Donc, tu sais, les choses sont vraiment adaptées pour des gens qui voient. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on peut voir et souvent même des choses un peu...
Mais c'est toujours à recommencer les enjeux.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, moi, je travaille en accessibilité aussi avec les villes. Tu sais, on va parler des pancartes, des affiches qui sont sur les trottoirs, tout ce qui bouge. Mais c'est toujours à recommencer. On le dit une année, puis là, il faut recommencer pour qu'ils modifient telle situation, notamment là, les pancartes, là, les panneaux de signalisation des travaux. Là. Mon Dieu, mais c'est
mon
trottoir.
Dieu,
là.
Non, ça, là, c'est, ça n'a pas de sens. Comment que, tu sais, exemple, justement, le samedi, dimanche... Il n'y a personne. Tu sais, des fois, on peut s'en sortir avec le bruit, avec... Moi, souvent, la personne va me voir de loin. Elle va dire « Madame, madame! » Mais la fin de semaine, là, le nombre de fois là, que je me dis « Eh, mon Dieu! » Je pense que là j'aurais pu me tuer, là, tu sais.
Oh oui, c'est
ça. C'est vraiment là, je tombais littéralement dans un cratère, là, tu sais. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment des enjeux vraiment de sécurité, là. On fait pas, tu sais, c'est vraiment la sécurité. Puis pour moi, c'est la chose la plus importante, là, de se sentir en sécurité dans sa ville, dans ses déplacements, dans, tu sais, tout ça, là.
Oui, exact.
Puis est-ce que justement, là, les participants, là, vous pouvez les accompagner comme, tu sais, tout le temps, là? Tu sais, qu'il y a comme, tu sais, du moment que tu arrives après ça, tu peux rester avec nous, puis on t'accompagne dans ton processus où il y a quelque chose, des fois, il y a des délais, là. Tu sais, c'est comme là, laisse la place à quelqu'un d'autre.
Non, parce que généralement, les gens vont avoir des besoins, que ce soit en technologie ou en intervention psychosociale. Puis, à un moment donné, tu sais, ils sont une couple de semaines, puis là, après ça, ça ralentit, c'est ponctuel. Mm-hmm. À un moment donné, ils reviennent parce que là, ça change, puis ils évoluent, puis tu sais, ils font d'autres choses. Donc, là, ils vont refaire des demandes. Mais il y a tout le temps un roulement, je te dirais, là, par rapport au service.
Puis là, dans le fond, c'est l'ARA, parce qu'on l'a dit une couple de fois, là, à oui. ERA, donc c'est l'acronyme. Là.
Oui.
Mais dans le fond, les gens, ils peuvent aller sur le site Internet, ils écrivent ERA ou ils écrivent Association éducative?
Non, ils peuvent juste taper ERA, effectivement, puis ils vont arriver sur... c'est sûr qu'il existe d'autres choses qui s'appellent l'ERA, mais...
Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que... c'est ça, c'est que moi, quand j'avais écrit l'ERA, je m'étais pas ramassé sa bonne affaire.
Mais c'est ça, mais dans le fond, oui.
Je pense que c'est parce qu'il faut mettre un E accent aigu.
Un mot-clé, là, à côté.
Oui, ou je pense que quand on met le E accent aigu,
oui.
Ça, c'est ça. Sinon, c'est A-E-R-A. Tu sais, l'autre, c'est A-E-R-A, là. C'est.
Fait que ouais, c'est lui, c'est A-E-R-A.
Oui, c'est ça, oui, exact. C'est ça. Donc là, les gens, là, s'ils veulent s'inscrire, comment ça fonctionne? Là, tu as parlé qu'il fallait qu'ils soient membres, là, qu'ils paient leur cotisation, mais comment ça marche? On appelle...
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, les gens vont me contacter, soit par courriel, par téléphone, et puis on prend rendez-vous, on discute ensemble c'est quoi leurs besoins, mm-hmm. C'est quoi leur enjeu, est-ce qu'ils ont de l'entourage, c'est quoi la déficience visuelle... tout ça, puis dans le fond, après ça, ils deviennent membres assez facilement. T'sais, lorsque tu as un besoin,
ouais.
Lorsque tu es reconnu handicapé visuel, on les prend, là, les gens. Là.
Ben, merci beaucoup, Karine. Ça a été vraiment un plaisir. Je trouve vraiment que c'est un bel organisme. Je suis contente de l'avoir mis en lumière. Et on invite les gens à aller sur le site Internet pour avoir plus d'informations à ERA. Merci beaucoup, Karine.
ERA0417.com.
OK, c'est bon, parfait. Bonne
merci
journée.
À vous. Au revoir.
Et tout de suite après la pause, je rejoins Annie Perrault, psychologue.